Les pieds sur terre, quartier d'été.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Lire, c'est vivre, proclamait Pierre Dumayet derrière sa caméra dans tous les villages de France, tout au long des années 70, quand il demandait à quelques paysannes normandes de lire Flaubert et de souligner les passages de sa Bovary, ou qu'il réunissait des enfants roux pour commenter Poil de carotte de Jules Renard. Lire, c'est vivre, disait-il, et sans doute voulait-il dire par là que les livres ne parlent pas uniquement des autres livres, comme on l'apprenait à l'école quand on disait que les textes sont des tissus, des palimpsestes faits de multiples couches d'autres textes, que la littérature, au fond, ne parle que d'elle-même. Lire, c'est vivre, ça voulait dire que les livres peuvent nous apprendre à vivre, nous aider, nous rendre la vie plus belle, plus tendre ou plus âpre, que l'art, c'est bien ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. Aussi avons-nous pris l'idée au vol et pensé non pas faire pareil que Pierre Dumayet, mais faire entendre ce que lisent les gens de nos jours, ce que ça leur fait comme effet, à quoi ça leur sert dans leur vie, ce que ça produit dans leur cœur et dans leurs rêves. Cela se passe dans la Somme, sur la côte d'Opale, à Caen, et nous sommes allés voir donc ce qu'on lit sur la plage un week-end de la fin du mois d'août, avant la rentrée, et aussi ce qu'on achète et qu'on lit dans une librairie parisienne du quartier le plus chic de la capitale. Des expériences de lecture et des histoires de vie très différentes, évidemment, placées sous le signe de Dumayet et de la Bovary, qui souffrent et pleurent, comme vous savez, dans 20 villages de France et à 7 heures même. Tout de suite donc sur France Culture, lire, c'est vivre. C'est le premier d'une petite série de 5 émissions cette semaine sur le thème de la culture pour tous. Et c'est un reportage signé Rémi Dibowski-Douatte et Charlotte Bien-Aimée.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Charles la croyait heureuse, hein. Elle lui en voulait de ce calme, si bien assis. Elle en voulait de ça.
Mais elle l'aurait voulu plus amoureux, plus, je sais pas, moi.
Vous avez souligné, il se couchait sur le dos et ronflait.
Ah ben bien sûr, on s'occupait pas d'elle, quoi. On était tout à son travail, et puis après, mon frère se reposait, elle était fatiguée, on s'occupait pas de la femme.
Vous vous souvenez de cette scène quand elle est invitée avec son mari au château? Ça compte beaucoup pour Emma Bovary, cette soirée.
Ah ben oui, il a changé les idées. Elle voyait des beaux plats, des bons machins qu'elle n'avait jamais vus, alors elle se trouvait transportée, puis au bal, elle était partie avec le vicomte. Ouais. Elle n'avait jamais été si dans le monde, alors elle se trouvait transportée de joie.
Son mari lui trouve un porte-cigare avec un cigare dedans, là, ce soir-là, vous vous souvenez?
On l'avait ramassé ça sur la route, c'était le vicomte qu'elle avait, l'avait perdu, alors elle était contente d'avoir trouvé ça, on l'a dit, je le fume le dimanche. Puis elle le regardait de temps en temps, elle respirait le parfum, il y avait le vicomte qui était là. Le
parfum du vicomte?
Oui.
Je lis beaucoup. Oui, beaucoup. C'est vraiment... C'est vivre mille vies, voilà.
On est à Quimplage, une petite station balnéaire de la côte Picarde. On est sur la rue qui mène à la mer. Il y a une dame toute seule qui est... emmitouflée dans un gros manteau, qui est en train de lire face à la mer. Bonjour madame.
Bonjour.
Vous arrivez à lire avec ce grand vent sur la plage?
Ah oui, tout à fait. On se concentre sur la lecture, il n'y a pas de souci.
Ça vous gêne pas, vous?
Mais non, la musique du vent et des vagues, ça berce. C'est la nature qui parle, voilà.
Et là, en ce moment, on parle beaucoup de la rentrée littéraire. Vous, est-ce que ça vous parle, ça, ou pas?
Non. Parce que j'évite de lire tout ce qui est à la mode et tout ce dont on parle à la télévision régulièrement. Je me méfie de la médiation aujourd'hui. Parce que tel éditeur a besoin de faire entendre tel auteur, donc c'est lui qui va avoir toute la pub. Même si derrière, il y a quelqu'un qui est merveilleux et qui aurait le talent de se faire connaître, on ne va pas s'en occuper, quoi, non. C'est dommage.
Alors vous prenez d'autres chemins alors?
Oui, tout à fait, oui. Voilà, J'ai réussi à avoir quelques références sur un journal, et dès qu'ils parlent de quelqu'un, et ben voilà, je sais que je peux leur faire confiance et je vais aller lire cet auteur-là, par exemple. Après, c'est pas toujours évident à trouver non plus en librairie. Et puis, je passe du temps d'abord dans les bibliothèques à trouver, parce qu'au niveau financier, je ne peux pas toujours aller acheter des livres non plus. Dans les bibliothèques, on en trouve quelques-uns, mais pas toujours. C'est comme ça que j'ai rencontré George Orwell. J'ai rencontré, grâce aux livres. Voilà. Là, par exemple, le 1984 de George Orwell, quand je l'ai lu, c'est un livre où il faut absolument que j'essaye de le finir le plus vite possible. C'est tellement tendu à l'intérieur qu'il faut que je sache comment ça se termine et je me sens vraiment mal à l'aise quand. Mais il faut que je lise, quoi. C'est un des livres qui m'a vraiment marqué comme ça. Et quand on le lit, on se dit, mais si vraiment ça se finit comme c'est dans le livre, c'est une véritable catastrophe. Il faut qu'on réagisse, quoi. Mais il faudrait vraiment que tout le monde lise ce livre et se dise, mais c'est vrai que. Les relations entre les gens, si elles continuent aujourd'hui comme ça, on va finir comme dans le livre. On va vivre les uns à côté des autres, chacun à sa place, avoir son petit immeuble, sa petite maison, rester bien tranquillement chez soi, alors que c'est pas ça, quoi. La vie, c'est rempli de monde, quoi. Il faut se... et accepter tout le monde. Et c'est un des livres qui, en même temps, il est dur à lire. Pour moi, il a été dur à lire. Enfin, parce que ça m'interpellait beaucoup, quoi. C'était vraiment... Je dis, punaise, quoi. Il a vraiment tout compris avant. Il faudra que je le relise, parce qu'il y a plein de choses où je l'ai lu trop vite, et il y a plein de choses, je suis sûre que je suis passée à côté, donc il faudra que je le relise. C'est un de ces livres-là, oui. Qui me...
Et alors, qu'est-ce que vous allez faire, là, maintenant? Continuez votre lecture?
Non, je crois que je vais essayer de faire voler le cerf-volant aussi, parce que c'est moi qui les ai dégotés tout à l'heure de la tanière. J'ai envie de faire voler les cerfs-volants, on va essayer.
Ah, votre mari, il essaye, là, mais ça marche pas trop,
oui,
pour l'instant.
Il a fait des nœuds. On va essayer d'aller démêler les nœuds et de faire voler. En plus, le vent est vraiment s'y porte, là, aujourd'hui, donc voilà.
On est à Paris, dans la grande librairie Gibert. Je vois une personne qui est absorbée par son livre. Bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous avez dans les mains comme livre?
Dans les mains, j'ai le dernier roman de Christophe Donner, À quoi jouent les hommes? La rentrée littéraire, j'aime bien Christophe Donner, j'aime bien son esprit, j'ai bien aimé ses livres précédents. Celui-ci, comme les autres, est consacré aux courses hippiques, avec apparemment une dimension historique qui peut lui donner une certaine profondeur. Ce qui me marque en profondeur tout le temps, c'est Proust. Donc, j'ai relu Proust pour la troisième ou quatrième fois avant les vacances. Ce sont toujours des chocs. Peut-être une façon de regarder le monde, je pense, de regarder les gens, de considérer les classes sociales avec ce qu'il y a d'humain dans chacune d'entre elles, parce que Proust ne parle pas que, mais il parle beaucoup de la haute bourgeoisie du Faubourg Saint-Germain de son époque. Tous ces gens-là, malgré leurs préjugés, sont des personnes profondes, avec leur humour, leur langage. Et ce que Proust observe à travers ce cercle très fermé, c'est en fait l'humanité. Et en face, on a des ouvriers, des employés qui ont la même humanité que ces gens de la haute société. Donc c'est peut-être une des façons de concevoir les autres. Organe de Guermantes, qui était une salope finie, il y a des saloperies sur les gens, mais c'est un drôle, une sorte de méchanceté, d'une cruauté à vis de leurs égaux, de leurs inégaux d'ailleurs. Et en même temps, ils sont tellement fragiles.
Et vous, madame? Je vous vois l'air admirative, là.
Bon, oui, toujours. Bon, ce monsieur est quelqu'un qui lit quand même beaucoup, beaucoup, dont quand même la profession était littéraire.
Hein. J'étais enseignant et il m'est arrivé de publier quelques romans également ces dernières années. Donc je suis vraiment dans la littérature jusqu'au cou.
Finalement, ce qui la menace, c'est une saisie.
Une espèce de saisie, et puis elle ne l'y croyait encore pas, mais elle est pas loin.
Ça va être terrible, ça, non?
Quand on voit ses voisins qui viennent nous acheter vos meubles, puis que vous n'avez plus rien, ils vous laissent une table, une chaise, un lit, un poêle.
Alors c'est un passage que vous avez revécu, ça.
Ça, oui, j'ai vécu. Vous savez, quand vous n'avez plus rien, puis que vous n'avez rien plus. Mon mari avait eu un accident. Et pour empêcher la saisie, il nous fallait 4 000. Alors, ces 4 000, personne ne voulait nous les prêter. Alors il a fallu basculer. Matériel, tout, les poules, tous les lapins, tout était saisi. Eh bien, vous savez, ça vous fait... ça vous remue. Eh bien là, j'ai compris qu'elle pouvait être dans la désolation.
Alors Madame Bovary, perdue de stupeur, court jusqu'à la pharmacie.
Madame, de l'arsenic.
Je suis pas trop bouquin.
Moi c'est pareil. Quand j'ai un livre, je mets au moins 2 mois à le lire. Alors, mais c'est beaucoup comme toi.
Oui, moi j'aime pas trop ça non plus. Non, c'est vraiment les magazines, c'est tout.
Moi, il n'y a pas très longtemps, j'ai tout relu Aristophane. Longtemps, je n'avais pas lu Aristophane. Mais tout ce qu'il dit dans ses pièces, vous prenez une centaine de livres ici, c'est les mêmes choses. L'argent, le sexe, les femmes, le pouvoir, puis voilà.
Il y a beaucoup de monde aujourd'hui, dernier dimanche d'août. Il y a des gens qui sont assis sur un banc, qui mangent un cornet de frites. Là, il y a un monsieur qui est plongé dans un livre. Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Je vous dérange en pleine lecture.
Ouais, je suis plongé dans un policier.
Alors, qu'est-ce que vous lisez ?
Un écho dans la nuit, de Jan Hemley.
Alors, il y a plein de monde autour de vous, les gens ils mangent des gaufres, jouent aux boules, et vous êtes plongé dans votre livre.
Moi, quand je suis plongé, c'est au contraire. À la limite, le bruit me calme, paradoxalement. J'entends un bruit, puis j'entends presque rien parce que je suis plongé dans ma lecture. Alors, bon, j'oublie tout, je m'évade. Très, très souvent, je lis en marchant. Je fais un peu comme les prêtres dans un cloître. Alors, je lis doucement et mes pas sont avec la lecture. C'est-à-dire que je lis doucement parce que je marche doucement. Et puis, comme ça, je peux faire des kilomètres, 1 heure, 2 heures. Je m'oublie comme ça.
Ah, n'importe où.
J'ai des parents qui sont à la campagne en Picardie, mais là je prends le chemin et puis j'essaie de ne pas me perdre parce qu'en plus j'ai pas trop de sens d'orientation. Donc je regarde des fois en arrière où je suis et puis voilà. Dans ça, j'habite dans la région parisienne. Alors voilà, je peux partir de Saint-Michel ou plein Paris et puis je marche pendant 4-5 km.
Ah, même en ville, vous le faites?
Ah oui, en ville, oui. Et trottoir, Paris, et passe de la Concorde, tu vois, je lis tout doucement. Et ça fait des années que je fais ça. Je ne sais pas pourquoi. Sagan, j'adore Sagan. Puis les classiques de Zola, Maupassant, Balzac. Et c'est marrant, dans mes lectures, c'est l'ange et le démon. J'adore l'égorgement, et le gore et sa scène. Et là, j'aime bien avoir peur. Ah ouais, voilà. Et je suis aussi fleur bleue, trimidinette, La Belle du Seigneur. J'ai adoré ce livre-là.
Pourquoi vous avez aimé Belle du Seigneur ?
Ah ben c'est un roman d'amour, c'est remis aux Juliettes, quoi. Ça finit mal, c'est ça qui est beau. Vous savez comment il s'aimait ? Il se téléphonait, et pour voir son chéri, elle se faisait belle, elle se douchait 3 fois, elle se maquillait 10 fois, elle changeait de robe. Mais c'était fou, mais c'était la passion. Il devait partir et se quitter au petit matin, mais c'était un déchirement, c'était trop. Et à un moment donné, il s'est aperçu que ça commençait à descendre. Ils étaient ensemble dans un restaurant, dans un pub, je ne sais pas où. Et pendant qu'il lui parlait, elle a réprimé un bâillement. Alors j'aime bien, j'ai presque souligné la phrase, et tout a commencé ça. Et à partir de là, c'était la dégringolade. Tac, 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 tac. C'est ça qui est beau, c'est que la dégringolade est atroce. Mais c'était, il se déchirait, il s'est même déchiré. Puis bon, après, ils ont choisi de mourir. Il a proposé de mourir. Et c'est beau parce que c'est l'amour fou, c'est l'amour. Ça m'a touché parce que. Quand on a été amoureux, et que surtout quand c'est un amour qui n'a pas été heureux, pas exagéré, mais enfin j'ai aimé 2-3 fois. Et ma plus belle histoire d'amour, c'est celle qui a la plus foirée. Quoi. C'est celle qui a la. Ouais, je me suis fait jeter.
Mais alors vous étiez comme Solal, vous étiez complètement passionné, vous pourriez de tout oublier.
Ouais. J'ai aimé une femme à la folie, et comme c'était en plus une maîtresse, parce que je suis marié. En plus, ma femme est blonde, c'est une femme assez forte et blonde aux yeux bleus. C'est un peu mon truc. Et elle, c'est le contraire. Bon, elle est, c'est une Algérienne, donc une petite femme, très très brune. Et bêtement, elle n'avait rien de terrible, elle n'avait rien de... Ce n'était pas du tout mon idéal.
Pourquoi vous étiez si passionné à eux ?
Mais parce que, bon, je suis israélite, je suis juif. Mon père, il disait, voilà, Jo, je sais que tu es un cavaleur, tout ça, tu ne touches pas aux femmes arabes. Tu les laisses tranquilles, tu touches tout ce que tu veux, hein, et les femmes arabes, tu ne les touches pas. Interdit. Le truc de mon père, vous savez, c'est comme Barbe Bleue, tu ne touches pas à cette chambre-là. Et elle aussi, elle était musulmane, Coran et tout, elle y croyait. Et elle était dans le péché. Alors elle, pareil, ça l'excitait parce qu'en fait, nous les juifs, on est le démon, on est le diable. Et on est la race maudite de Dieu. Alors elle me racontait des choses, vous êtes maudits, vous savez que vous n'avez pas de paradis. Et donc elle était raciste, j'étais le diable, elle était avec le diable. Et en plus, elle était mariée avec un homme de 20 ans plus qu'elle. On était à l'hôtel, c'était la folie, on s'embrassait et tout. Et dès qu'elle avait joué, elle me repoussait. Va-t'en, tu ne touches pas, tu ne touches pas. Tu ne touches pas, tu es un Satan. Khlam, elle me disait, khlam, ça veut dire péché en arabe. Khlam, khlam, Jo, c'est pas bien ce qu'on fait, c'est pas bien. Je lui dis, mais Allah, il va te pardonner. Mais il me dit, Allah, mais il ne me regarde même pas. Je lui dis, mais il va te regarder plus tard, tu vas lui demander pardon. Oh là là, il me dit, mais non, ça ne se passe pas comme ça, tu ne sais pas. Et puis voilà, ça. Et puis c'était.
Mais c'est un véritable roman, votre histoire.
Ah oui, c'est un roman. Et c'est vrai, c'est pas des. Voilà.
Alors votre histoire à vous se termine bien.
Ah oui, oui. Maintenant, je me suis assagi. Je suis grand-père 8 fois, 42 ans de vie commune.
Et là, qu'est-ce que vous allez faire maintenant ?
Alors là, je vais rentrer tranquillement. On mange assez tôt, comme les petits vieux, à 6h30. Là, elle est en train de peut-être me faire chauffer, bah, je sais pas quoi. Et puis, on va regarder la télé. Et puis, voilà.
Bonjour monsieur.
Bonjour.
Je vous vois plongé dans un bouquin, c'est quoi ?
Je suis à peine plongé dedans, je viens juste de l'ouvrir. C'est Sincèrement vôtre de Chourik et justement je voulais voir si ça venait de paraître ou si ça faisait déjà quelques temps que c'était sorti. J'aime bien ne pas être trop moutonnier dans mes choix, donc soit par exemple... Si un livre ou un auteur commence à avoir énormément de succès, je voudrais précéder un tout petit peu la foule, soit carrément je peux attendre des années que ça retombe, et si j'estime que le texte est encore intéressant, eh bien ça ne me dérange pas de le lire quelques années après qu'on en a parlé.
Est-ce qu'il y a un livre qui a changé votre vie ?
Il y a un auteur qui a changé ma vie, qui est Kafka. Il l'a changé, ça l'a changé, disons qu'il a... Il m'a apporté un appui que je ne pouvais pas trouver autour de moi-même à une époque où je recherchais ce genre de choses. Voilà. Disons que c'était la rencontre d'un solitaire par un solitaire.
Vous avez quel âge ?
16-17 ans. Et je crois que c'est le jour où j'ai dépassé l'âge auquel il est mort, 41 ans, que j'ai pris mon indépendance par rapport à lui, curieusement. Donc je faisais sa connaissance à 17 ans et je me référais sans cesse à son journal. Je me disais, tiens, voilà, tel âge, voilà, il a écrit ça. J'ai tel âge, à tel âge, il a écrit ça, 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 ça. Et puis un jour, j'ai continué à vivre et il n'y avait plus cette possibilité de me référer à ce que lui avait écrit à l'âge que j'avais. Et puis ma vie a pris un tour peut-être un peu différent, ma personnalité aussi.
Moins solitaire ?
Oui, plus ouvert. On touche des zones intimes que je ne m'attendais absolument pas à révéler devant ce rayon. Enfin voilà, pour moi, toutes ces choses autour de la littérature ne peuvent que se chuchoter.
Vous ne voulez pas me chuchoter les raisons pour lesquelles, à 17 ans, ça a été si important de rencontrer Kafka ?
Non, mais simplement une solitude qui était moins solitaire d'un seul coup, c'est tout. Et voilà, c'est l'époque où on a besoin, un âge où on a besoin de mentors, où on a besoin de rencontres. Bon, cette rencontre-là était simplement livresque, mais elle était forte.
monsieur qui est assis sur un banc avec un parapluie, un short, des lunettes de soleil et une belle chemise à carreaux bleus et blanches. Bonjour.
Bonjour mademoiselle.
Comment vous vous appelez ?
Mon prénom c'est Jackie. Je suis en vacances en tant que retraité pour plus de 2 mois ici à Quimploge.
Et alors est-ce que vous lisez devant la mer ?
Ah ben bien sûr, mais de toute façon j'ai lu Voltaire. Des gens comme ça, c'était des gens précieux. Mais quand je les ai lus plus jeunes et que je les relis là, en retraite, je n'ai plus la même valeur des choses et la même réaction dans ma tête de ce qui a été écrit. Et je vois la force de l'écriture en plus. Quand on le lit à 18 ans, on parcourt, et puis bon, il y a des choses qu'on ne s'arrête pas. Tandis que là, maintenant, moi qui aime bien l'écriture, les mots, parce que nous, on utilise dans le langage courant les mots les plus usuels, mais dans la richesse de la langue française, des fois, il y a 4-5 mots bien plus compliqués que les gens n'utilisent pas, ou alors seuls les magistrats, les avocats, les juges, ou les gens quand même qui ont une certaine culture littéraire. Quand il y a un mot que je n'ai jamais parcouru, qu'est-ce que je fais? Je prends le dictionnaire, j'ai un cahier, je l'écris, et j'écris tous les mots de la même famille avec leur signification. Par exemple, les gens ils vont dire « Ah ben, ma copine, elle est enceinte. Ben, moi, ce mot-là, enceinte, il ne me plaît pas. » Moi, je vais dire « Cette personne, elle est en état de parturition. » Vous le connaissiez, ce mot-là? Parturition. Bon, eh ben, voilà la force de l'écriture. Ce que j'aime surtout, là, en ce moment, c'est tout ce qui est scientifique. Moi, je suis rationaliste basé sur la vérité et la raison, la haute raison des choses, et aussi tout ce qui est prouvé par la science.
Et vous vous souvenez de certains personnages qui vous ont marqué, que vous aimiez ?
Sous certains aspects, tous ceux qui font le bien autour d'eux, ça me touche. Hein ? Mais il n'y a pas beaucoup de livres qui interprètent cette sensibilité-là d'aider les plus humbles et les plus faibles. Prenons le comte de Monte Cristo, tout ça. Le curé, il a donné ses secrets, ses trésors et tout ce qui s'ensuit à un malheureux. Bon, tout ça, ça me plaît. Plus que mes romans qui ont la sensation avec des coups de revolver et puis je te trompe, tu me trompes, tu couches avec qui Non, ça, c'est de la perte de temps. Je suis toujours à défendre les humbles et les pauvres, à leur faire des écritures aussi parce qu'ils ne savent pas écrire. J'ai écrit à tous les présidents de la République, tous les premiers ministres, sauf le dernier, là, Hollande, pour faire des démarches, grâce à l'écriture, pour défendre des humbles, des pauvres qui ne savent pas faire respecter leurs droits. Personne pour les défendre. Il n'y a pas dans les villages des gens qui sont capables d'aller voir les plus humbles, les plus pauvres, dire « Mais comment tu fais pour vivre ou survivre ?» Alors qu'il y a près de 10 millions de Français qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Bon, ben, ça fait boule de neige, les gens ils viennent me voir comme une assistante sociale. Qu'est-ce que vous voyez, regardez, il y a ça. Puis voilà.
Et quand vous dites Voltaire, là, vous avez des exemples, hein, de livres que vous avez lus quand vous étiez jeune
livres,
et maintenant.
Les livres, je ne me rappelle plus, mais des choses essentielles. Il n'y a pas de moins bonne, il n'y a pas de meilleure ni de moins bonne religion que d'y croire. Il n'y a pas de meilleure ni de moins bonne religion que d'y croire. Bon, celui qui croit à Allah, à Jésus-Christ, à Bouddha. Et pourquoi se battre puisque eux, leur dieu, c'est le meilleur. Moi, de tous les dieux, j'en vois aucun, parce que j'en ai jamais vu un.
Et ça sert à quoi de lire ?
Ça sert, c'est une bonne nourriture de l'esprit. Quand vous lisez un livre, c'est comme moi quand je joue de l'orgue ou de l'accordéon. Je suis ailleurs, je suis dans un autre domaine.
Vous êtes où ?
C'est un peu en extase. Ça vous transporte, ça vous transplante. Et voilà.
Dans le fond, elle a bravé les gens de son village. Elle se sentait pas aimée par les gens de son village. Elle les a bravés, quoi, en faisant ce qu'elle faisait.
Mais est-ce qu'elle était vraiment consciente de les braver? Je sais pas.
Pour moi, je crois que c'est une femme qui était sans occupation, quoi. C'est pour ça qu'elle est devenue comme ça.
Ben oui, mais elle aurait pu s'occuper.
Non, je crois qu'elle était femme de médecin.
Oh,
elle ne pouvait pas.
Enfin, elle s'occupait même pas de sa fille.
Mais
oui,
voilà.
Voilà, c'est ça. Oui, voilà, ça. J'ai oublié d'en parler, aussi, effectivement.
Ni sa fille, ni son père, ni rien du tout.
Elle avait des élans d'amour maternel.
Exactement
quand elle
comme vis-à-vis de l'Église. Oui. C'est-à-dire tout d'un coup, elle se rejetait.
Oui, quand elle achetait des bons dieux, elle achetait.
Oui, oui. Et avec la petite, elle faisait exactement
la même chose. Quand elle avait des malheurs, elle se rattrapait sur quelque chose, quoi. Mais elle n'a jamais eu ces élans avec son mari.
Vous la voyez faisant des avances à Charles?
Ben, pas des avances.
Ça aurait donné quelque chose. Vous croyez que ça aurait donné quelque chose?
Mais faut, on n'y pensait pas, lui, qui voulait dans. On avait ses clients, on avait tout. On ne lui refusait rien, elle avait tout ce qu'elle voulait.
Ah oui,
bien sûr. On la croyait heureuse.
Il lui a même acheté un cheval. Trop.
Ben oui, on l'a poussé même à faire du cheval. On l'a poussé dans les bras des amoureux. Oh, pauvre vieux, on avait du malheur, moi je le plains.
Mais ce qui termine finalement Mme Bovary, c'est le succès de Homais. Il est décoré, il est gens d'honneur, il a tout ce qu'il veut.
On a eu tout ce qu'on voulait.
Mmh. Oui, parce que les trois autres médecins, qu'est-ce que la société distribue des médailles à des gens comme ça?
Enfin, c'est le seul personnage qui s'en sort.
Parce qu'il est arrivé à ses fins, tandis que les autres y ont arrivé dans le néant. Ils sont morts tous les deux, ils sont partis. On n'en parle plus.
She's an emotion avenger. She is the villain who sends a line of dark, fantastic passion. She knows that you will surrender. Knows that you will surrender.
C'était Les Pieds sur Terre, Lire, c'est vivre, un reportage de Charlotte Bien-Aimée, Rémi Dibowski-Douatte, diffusé pour la première fois le 31 août 2012. Il était réalisé par Emmanuel Geoffroy avec un coup de main de Clémence Grosse.
Why should ugly skin that never feels? Never feel your fingers tingle, tense anticipation on it. This one is an easy one. Feel a word and melt upon it. Words of love, words so leisured, words are poison. Yes, she's in a black mood tonight. Watch her dye your black hair white. Rob you of your muscles slacken. All the skin that was so tight. So ask for reason. Oh, ask for any reason. Oh, ask for the one reply. Dies with reason. Try for reason, then die.